France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué? Celui qui agit encore tel une révélation. Philosophe, historien, scientifique aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'un d'entre eux, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui notre invité, thérapeute, essayiste, chercheur, a choisi d'évoquer un texte paru en 2016 aux États-Unis, 5 ans plus tard en traduction française. Un texte qui ne se veut pas démonstration logique ni étalage de preuves, qui ne veut pas qu'on soit d'accord avec lui, qui assume qu'on le discute, qu'on le nuance et qu'on s'en nourrisse. Cet essai explore et revendique le conflit, car comme son titre le dit, le conflit n'est pas une agression et il est signé Sarah Schulman.
J'ai remarqué que les personnes traumatisées perçoivent souvent la différence comme une menace à leur égard. De la même façon, les gens qui appartiennent à la culture dominante ont aussi le sentiment que la différence est menaçante. Mais c'est pour des raisons complètement différentes. Parce que quand on a été élevé pour être dominant, on pense que les autres n'ont pas le droit de nous remettre en question. Et donc, s'ils le font et qu'il faut regarder en soi-même et découvrir que quelque chose ne va pas, le seul fait de devoir faire une autocritique est ressenti comme une agression, car on devrait avoir le droit de ne jamais se remettre en question. Mais parfois, quand on a subi un traumatisme, c'est très dur de tenir le coup. Et si la différence fait qu'on doit se remettre en question, alors on peut avoir l'impression que tout va s'écrouler. On ne pourra pas aller au bout du processus. Donc, dans les deux cas, la différence devient une menace. Et souvent, ce sont ceux qui sont vraiment en danger qui sont considérés à tort comme dangereux, que ce soit des réfugiés, des malades du sida ou des Palestiniens. Ce sont des catégories que nous devons réinterroger. Et je suis heureuse de pouvoir le faire avec vous.
Merci.
Bonjour Juliette Drouard.
Bonjour Géraldine.
Bienvenue dans le souffle de la pensée, vous êtes thérapeute, essayiste, chercheur, vous êtes l'auteur de plusieurs essais, le dernier s'intitule « Trauma, en finir avec nos violences », il est paru récemment aux éditions Stock, je cite aussi votre roman « Cui-cui » paru en janvier 2025 aux éditions du Seuil, j'adore ce titre « Cui-cui », j'aime beaucoup le dire, je ne vais pas le répéter durant l'émission. Alors vous avez choisi de nous parler d'un texte qui s'appelle « Le conflit n'est pas une agression », j'adore aussi ce titre parce que la thèse est très claire, il est signé Sarah Schulman, qu'on vient d'entendre dans une archive de 2021. Est-ce que vous pouvez nous présenter Sarah Schulman avant qu'on parle de ce livre?
Eh bien, Sarah Schulman, c'est une personne très prolifique et très engagée, qui a écrit beaucoup d'essais, beaucoup de textes, qui a été une des membres fondatrices de Lesbian Avenger, qui est très engagée dans Jewish Voices for Peace, également dans les luttes contre les violences faites aux personnes porteuses de VIH. Donc voilà, elle fait plein de choses.
Et elle est peu connue en France. C'est pour ça que je vous demande de la présenter. C'est que en France, on a 4 textes d'elle qui ont été traduits uniquement, alors qu'elle a écrit quoi, une vingtaine d'ouvrages, des pièces de théâtre aussi, des romans, des essais, vous l'avez dit. Et donc, parmi ces textes, il y a 2 romans, 2 essais, et donc il y a Le conflit n'est pas une agression. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce texte, sachant que le titre est très clair, je l'ai dit, et que l'archive qu'on a entendue nous met un petit peu sur la piste, voilà, du contenu de ce livre?
Eh ben ouais, j'ai choisi ce texte pour plusieurs raisons. Bah déjà parce que c'était cohérent par rapport à l'émission, dans le sens le souffle de la pensée. Parce que ce texte, c'était une rencontre par rapport à l'écriture du dernier essai, Trauma. Une rencontre dans le sens où j'ai une manière de travailler qui fait qu'il y a des textes qui sont très forts et qui sont peut-être ceux qui sont le plus en résonance avec ce que j'écris, que je vais lire à la fin, plutôt que de les lire au début.
J'adore cette méthode. Vous remettez dessus parce que c'est vraiment intéressant, vous êtes le seul à dire ça.
Donc je l'ai choisi, et ces textes-là, je les appelle les textes rencontres, parce que c'est les textes de fin, et où, en fait, ça va plus être pour moi comme rencontrer un ou une amie, où on se dit, punaise, c'est ouf, on a eu la même idée. Et en fait, ça vient à la fois, du coup, ensuite augmenter, combler, bon, plein de choses, enrichir la pensée comme dans une rencontre, et aussi à une sorte de soutien à ce qui a été pensé. Et ça, je trouve que c'est très, pour moi, ça compte. C'est-à-dire que c'est autre chose que les sources qui font, qui nous inspirent au début ou pendant, ou qu'on... C'est, ouais, toi, t'as pensé la même chose que moi et je t'estime. Et donc, ce que je pense, sûrement n'est pas complètement à côté de la plaque. Surtout quand on est en train de penser des choses qui sont rarement dites ou écrites. Et c'est souvent... Enfin, c'est l'endroit qui m'intéresse, moi. Voilà. Écrire sur l'inceste, c'est ça qui m'a intéressé. Écrire sur l'hétérosexualité en tant que système politique. C'est ces questions où il y a des trous dans la littérature. Donc, ce livre-là, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que ça a été la rencontre, je dirais, après l'écriture de Trauma, et qui a enrichi, du coup, en rétro-boucle, quoi, le texte. Et aussi parce que, évidemment, je suis... à la fois, enfin, je trouve que c'est un livre important parce que ce qui est pensé est important, à savoir quels sont les mécanismes à la fois de sociologiques dans le sens de pouvoir, mais à la fois psychologiques dans le sens de traumatisme, qui peuvent mener à des violences.
Donc ça, c'est la thèse de votre livre, Juliette Drouard, de Trauma, en finir avec nos violences, parce que pour comprendre, comme vous avez choisi ce texte qui est venu après, en fait, vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui allait se jouer, mais vous l'avez pas lu tout de suite, mais plutôt, comme vous dites, avec en fin de partie, comme une sorte de débrief, en fait, entre amis, en disant, j'ai travaillé là-dessus, et toi, t'as travaillé sur quoi? Ben, moi, plutôt là-dessus. Donc, ça veut dire que il faut d'abord qu'on sache peut-être de quoi parle Trauma, votre livre, ce lien entre traumatisme et violence que vous établissez.
Ben, ça parle exactement de ça, justement. Ça parle de la même chose. C'est pour ça que je savais qu'il y avait, que je me suis gardé de le lire. Parce que aussi, je voulais pas non plus prendre un chemin qui être un peu trop faussé dans comment j'aurais posé les choses, moi, au départ. Donc, ça traite de la même chose. Trauma, ça traite de comment on en arrive à être violent ou violente. En lien avec nos traumatismes et en lien avec les inégalités de pouvoir. Donc, comment articuler ces deux choses, c'est-à-dire les questions de domination, d'inégalité de pouvoir entre les personnes et entre les groupes sociaux, et le fait que nos traumatismes sont un terreau favorable à l'acte violent. Et donc, j'ai essayé effectivement de savoir pourquoi les traumatismes étaient ce terreau-là favorable, comment ça se passait en fait dans les traumatismes, qu'est-ce qui pouvait faire que on puisse devenir violent ou violente, et en sachant qu'il y a plusieurs mécanismes, et comment le fait d'avoir plus de pouvoir qu'un ou une autre était un facteur favorable au passage à l'acte violent. Autrement dit, pour le dire très simplement, on tape plus facilement sur un ou une plus petite que soi.
Plus faible.
Hein. Voilà. Sinon, on peut enclencher d'autres mécanismes liés au traumatisme, mais qui peuvent être la fuite, qui peuvent être plein d'autres choses. Mais donc voilà, moi je l'ai articulé comme ça, et Sarah Schulman l'articule légèrement différemment, mais c'est dans la même...
Et ça m'intéresse vraiment, cette méthode que vous avez, Juliette Drouard, enfin, qui est inédite, parce qu'en général, on va se dire, on lit tout pour éviter justement d'aller sur le même chemin, ou pour se dire, est-ce que ça vaut le coup que j'écrive quelque chose? Et justement, vous vouliez vous prémunir de ça, c'est-à-dire ne pas être trop influencé, ne pas vous dire aussi, bah, je ne vais pas écrire parce qu'en fait, quelqu'un l'a fait, et mieux, et en fait, ça coupe l'herbe sous les pieds, ça coupe l'élan.
Exactement. Exactement, il y a aussi cette peur dont on devrait tous se prémunir, parce qu'en fait, les sujets, bon, voilà, ils voyagent dans le temps, l'espace, enfin, il y a toujours quelque chose de commun.
Puis il y a un air du temps. Et de voilà, fait, il y a aussi des sujets qui sortent à certains moments, qui deviennent plus
et c'est la forme qui est importante. C'est ce qu'on va en faire singulièrement. Donc, on devrait tous écrire si on en a l'envie, bien que le sujet. Mais, comme vous dites, ça peut être très inhibiteur de lire quelqu'un où c'est exactement à l'endroit où vous voulez être.
Ouais.
Et tout d'un coup, et en plus, si on l'a pas pensé avant, on va d'autant plus se dire, ah bon, bah, zut, c'est déjà fait. Ou en tout cas, c'est confusant, ou c'est... Et c'est vrai que moi, cette manière de faire, je l'ai eu très, très tôt. Enfin, pour raconter la petite anecdote, quand j'étais c'était en terminale ou en première qu'on commençait la philo, je sais plus.
En terminale. Je crois qu'on est de la même génération, il n'y a que terminale.
Je crois que c'était terminale. Et j'avais une super prof de philo. Je sais pas si je peux citer son nom.
Oui, bien sûr.
Madame Savignol. Et en fait, je lui avais demandé si est-ce que ce serait ok que je dorme près du radiateur, parce qu'en plus c'est vrai que j'étais souvent avachi, j'étais souvent très crevé par l'école.
Autant être à côté du radiateur.
Autant être à côté du radiateur, tant qu'à faire. Mais là, ce n'était pas par ennui, c'était, je lui ai dit, en fait, c'est des sujets. Enfin, je veux dire, pourquoi la vie, l'existence, qu'est-ce. J'ai pas eu le temps. Je dis, moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir à ça, et je ne veux pas qu'on me mette des idées dans la tête que je n'ai pas eues, pas qu'elles soient pas intéressantes. C'est juste, je voudrais voir, moi, où ça va. Et c'est ça qui m'intéresse.
Surtout qu'au lycée, a priori, on est encore quand même dans l'état d'esprit de penser que ce qu'on nous donne en cours, souvent à raison, parfois non, mais en tout cas, on a moins un esprit critique. Et donc, effectivement, si on se questionne sur l'existence et qu'on lit tout de suite les existentialistes, on va avoir tendance à penser comme eux et à pas être critique vis-à-vis d'eux, ce qu'on va développer plus tard.
Tout à fait, ou alors on sait déjà, ou alors on n'adhère pas du tout, mais on ne présente que ça. Mais effectivement, le panel nous est proposé et a déjà été sélectionné, en plus par le ministère de l'Éducation nationale. Bon, il y a une marge de manœuvre des professeurs, mais je veux dire, il y a un programme, donc c'est quand même très sélectif. Et souvent, c'est des ouvrages qui font malheureusement partie aussi de la culture dominante, même si ça peut être très intéressant, que ces philosophes-là sont très intéressants, mais on va rarement nous présenter... quelqu'un de, voilà, la philosophe, je sais plus...
qu'on connaît voilà, pas, qu'on connaît plus alternative, qui va penser d'une manière différente, du cas qu'on a.
Effectivement, je lui avais proposé ce deal de moi dormir.
Et qu'est-ce qu'elle avait dit, moi, c'est ça qui m'intéresse.
Et alors, en bonne philosophe, elle avait apprécié la démarche. Et elle m'avait dit, d'accord, vous ferez effectivement les devoirs et les... Que je vous donnerais sans avoir écouté particulièrement les contenus. Du coup, j'ai eu 7 au bac. Parce que
c'est le risque à prendre.
C'est le risque à prendre. Mais aujourd'hui, finalement, je m'en sors pas si mal.
En philo. Oui, vous citez d'ailleurs Anna Arendt dans votre livre. Je le souligne. Mais il y a aussi cette idée quand même que quand on a lu les textes avant, ça nous permet aussi d'affiner notre position. C'est-à-dire de se dire, voilà, alors, c'est pas parce qu'il l'a dit que je vais m'empêcher de le dire, je peux le penser. J'ai aussi ma voix à porter qui sera jamais tout à fait la même parce que les expériences sont singulières. Mais ça permet aussi, en fait, d'aller plus loin dans la précision du problème et d'aller discuter plus en profondeur et plus en détail aussi quand on lit quelqu'un.
Oui, c'est vrai.
Quand on le fait en amont, mais ce que vous avez pu aussi faire peut-être avec Sarah Schulman, c'est-à-dire lire une fois que vous avez rédigé et après.
Et
voilà,
après revenir. Et encore une fois, c'est j'applique cette démarche à des. Bon, je l'ai appliquée plus généralement, voilà, plus jeune, et je me suis tenue au contrat par ailleurs, parce qu'après le bac, j'ai commencé, à m'intéresser à philosophie, aux spiritualités, aux grands textes religieux. Mmh. Il se trouve d'ailleurs que je me suis sentie proche complètement d'autre chose que de ce qui était proposé, à mon grand étonnement. Et donc, c'est aussi cultiver une envie de penser que de faire ça. C'est ça qui fait qu'on est aussi qu'on se sent dans une forme d'aventure, quoi. Je suis en train de découvrir quelque chose, et donc se dire, ah bah, il y a 30 000 personnes qui l'ont déjà pensé, c'est des fois ça coupe un peu, voilà.
Oui, bah c'est comme certains romanciers qui veulent pas écrire parce qu'ils ont lu Proust. Ouais. Forcément ça coupe l'envie.
Exactement. Mais c'est vrai que cette démarche je l'applique vraiment de manière très sélective. Encore une fois, il y a que un livre là que je n'avais pas lu, c'est celui-là. Parce que je sais qu'il est exactement, c'était le seul que je connaissais ou qui nous est parvenu, qui est exactement à l'endroit où je voulais écrire, qui n'est pas très, il y a pas beaucoup d'écrits à cet endroit-là, avec des termes contemporains. Parce qu'il y a beaucoup d'écrits à l'endroit de la souffrance psychologique et vecteur de violence, ou terreau, ou voilà, ça oui, mais en l'adaptant de manière contemporaine, c'est-à-dire au traumatisme et en le plaçant dans un champ d'études politiques sur les dominations, ça...
Il n'y avait que Sarah Schulman.
Voilà. Donc là, je savais que c'était celui-là qui...
Qu'il ne fallait pas lire tout de suite.
Qu'il ne fallait pas lire tout de suite.
Et quand vous l'avez lu, ça vous a fait quoi? Vous avez découvert quoi? Est-ce que vous avez réécrit des choses dans votre livre Trauma? Est-ce que vous vous êtes dit, mince, je n'avais pas vu ça, ça c'est une erreur? Qu'est-ce que ça vous a fait? Et aujourd'hui, des années après avoir écrit Trauma et donc avoir lu Sarah Schulman, vous en êtes où? Est-ce que c'est un texte qui continue à vous imprégner, à vous parler, que vous relisez du coup maintenant régulièrement?
Que j'ai relu un peu là pour l'émission.
Pour l'émission, je vous remercie.
Mais merci à vous parce que ça, en fait, ça m'a d'autant plus fait prendre conscience à quel point son texte est intelligent, parce qu'il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de, est très actuel en fait. Et prend une résonance particulière aussi par rapport à ses analyses géopolitiques. Et donc, ça a redonné encore plus d'épaisseur, parce que je pense que, pour répondre à la première partie de ta question, ce que ça m'a fait, je l'ai lu avec aussi de l'appréhension. Donc je pense que je ne l'ai pas lu avec autant de temps que nécessaire. C'est-à-dire, là, j'ai pris plus le temps de me poser, de lire des fragments. J'ai pas tout relu, mais, parce que c'est un livre quand même conséquent. Je l'ai lu avec un peu d'appréhension parce que j'avais peur que, en fait, soit écrit tout ce que j'ai, enfin, voilà, si, que ce soit trop similaire et d'être là, bon, bah, merde, ce livre sur lequel je viens de passer, parce que j'ai passé genre 3-4 ans. C'était le livre le plus long pour moi à écrire, Trauma. Et de me dire, bon, bah, zut, donc j'étais un peu tremblotant quand même de
qu'est-ce qui va se jouer pour moi, là.
Voilà, tout en sachant que c'est assez irrationnel, parce que, voilà, encore une fois, on prend des formes différentes liées à nos vécus, mais. Donc j'étais soulagée parce que c'est une forme très, très différente. Et donc, je trouve assez complémentaire aussi, dans le sens où c'est très riche en exemples. Alors que moi, je pense que j'ai pris les choses d'une manière presque plus mathématique, c'est-à-dire dans une forme d'équation de, ok, d'un côté, il y a des inégalités de pouvoir, plus des personnes traumatisées, quels sont tous les cas de figure A, B, C, D, égal, truc. Et j'ai plus développé, on va dire, l'aspect en traumatologie, parce que c'est aussi
c'est très
mon métier.
Votre
donc c'est aussi clinique, d'essayer de savoir voilà, tous les mécanismes présents, etc. Donc j'ai rencontré une forme différente et néanmoins une rencontre parce que on pense quand même la même chose fondamentalement. C'est-à-dire que s'il y a une ignorance à la fois des dynamiques de pouvoir entre les personnes ou les groupes sociaux, donc c'est-à-dire si on ignore qu'il y a des positions de pouvoir fortes dans certains conflits, et ou si on ignore qu'il y a des biais psychologiques, on ne va pas comprendre pourquoi il y a une escalade vers la violence.
Et une confusion entre conflit et agression, c'est-à-dire
une confusion entre conflit et agression, dans le sens où... d'ailleurs, ce titre, il peut être pris de différentes manières. Mais ça peut être pris soit dans le sens de « il y a effectivement un conflit entre deux personnes », qui ont pas un énorme pouvoir l'un ou l'une sur l'autre, enfin pas dans une disproportion, on va dire, qui fait que l'un ou l'autre aura peur de mourir en face de l'autre. Voilà, je vais le résumer comme ça, se sentira en danger. Il n'y a pas de danger physique ou psychologique. Je peux résister à l'autre de manière objective. Attention, pas de manière subjective. C'est pas de dire « Ah, je suis en danger alors qu'il n'y a pas de facteur objectif. » C'est « On est dans un conflit quand... » on sait que l'autre n'a pas un pouvoir sur notre vie et que c'est vrai de manière objective et que on a du bif parce que bah voilà, moi j'ai telle envie, j'ai tel besoin et puis l'autre en a d'autres, bah c'est ça l'altérité. En fait, c'est normal le conflit, heureusement.
C'est ce que rappelle d'ailleurs Sarah Schulman, elle dit on a un problème en fait avec la différence, c'est-à-dire qu'il faut accepter qu'on soit différent et qu'on ne soit pas d'accord. Voilà, elle insiste sur ce terme de différence qui est intéressant.
Tout à fait. C'est normal. Sinon, il n'y a pas d'altérité, il n'y a pas d'autre, et puis on s'ennuie, et puis c'est nul. Enfin, on n'existe pas, en fait. On est dans un confondu. Donc, quand il y a une situation de conflit, objective, entre deux protagonistes qui ne peuvent pas se mettre en danger l'un l'une l'autre, l'une des protagonistes peut se sentir en danger alors qu'elle n'est pas en danger, de par les traumatismes qu'elle a subis et qui font que l'altérité, justement, va être perçue comme dangereuse, même quand elle ne l'est pas. Parce que c'est le principe du traumatisme, c'est continuer à se sentir en danger alors qu'on ne l'est plus. Parce que la mémoire n'a pas pu jouer son rôle. On peut y revenir de manière physiologique si c'est intéressant pour la discussion. Mais... Et dans ces cas-là, ce conflit-là peut donner lieu à des actes, on va dire, des formes d'escalade, que ce soit par la fuite ou au pire des actes violents, parce que la personne se sent en danger alors qu'elle ne l'est pas et donc va avoir tendance à mobiliser des mécanismes soit d'agressivité ou de fuite qui n'ont pas lieu d'être. Après, on peut le prendre aussi sous une autre forme, c'est-à-dire de dire dans des endroits où il y a un pouvoir très fort d'une personne sur l'autre. Par exemple, d'un policier sur une personne civile. Donc là, c'est objectivement, il y a un ascendant et on a la capacité de mettre l'autre en danger. Le conflit n'est pas une agression. Ce titre peut être pris aussi dans ce sens-là, quand il y a un ascendant de pouvoir, où, en fait, la personne dominante dans la situation, qui a l'ascendant, va mobiliser la rhétorique de l'agression pour produire de la violence. Et dire, ah bah oui, mais moi, je me suis senti en danger par cette personne-là, par comment elle a réagi, comment... Et du coup, et ben, mobiliser ça, ça, ça va lui donner une assise pour agir de manière violente.
Et produire une réelle agression.
Et produire une réelle agression pour se prémunir d'une soi-disant agression que l'autre n'a pas le pouvoir de produire du tout.
Donc ce qui veut dire que dans les deux cas, en fait, il y a une incompréhension sur ce qu'est un conflit ou en tout cas sur ce qu'est une agression. On a tendance à prendre une différence comme une agression, que ce soit parce qu'on a eu des traumatismes ou que ce soit parce qu'on est en situation peut-être de domination et qu'on va mal interpréter la situation ou le comportement d'une personne en la voyant comme une menace.
Bah, c'est là où je nuancerais, c'est je pense que là où je suis un tout petit peu, enfin où je me placerais un petit peu différemment, c'est que parfois, effectivement, c'est le cas où on prend l'autre comme une menace de manière et on a peur et on le vit en tant que tel. Il y a d'autres mécanismes qui sont convoqués dans les traumatismes et qui évidemment sont accentués quand on a l'ascendant de pouvoir sur l'autre. C'est notamment la coupure d'empathie aussi. Donc il y a plein de choses. Il n'y a pas que ah j'ai peur de l'autre. Il y a aussi encore une fois par exemple des mécanismes de coupure d'empathie qui peuvent être présents dans la situation. Donc peut y avoir aussi et de déni. Donc peut y avoir aussi beaucoup de mauvaise foi autrement dit. C'est-à-dire, le policier, c'est pas parce que seulement il a peur et qu'il se sent agressé et du coup qu'il réagit. Ça peut arriver qu'il y a vraiment ce sentiment d'agression alors que c'est pas le cas et du coup, je réagis de manière violente. Mais ça peut être aussi, c'est pas que j'ai peur, mais je vais instrumentaliser le fait de dire « Ah, j'ai eu peur », d'instrumentaliser l'agression pour dire « Bah, c'est légitime ». C'est-à-dire d'instrumentaliser l'éthique, en fait. Quand on dit « Bah, moi, j'ai été agressé » ou « L'autre était dangereux », on vient instrumentaliser des sentiments de compassion, d'empathie, et on se place du côté du bien. Donc ce qui vient aider à justifier la violence qu'on va produire chez l'autre. Bah attends, bah, c'est normal, c'était mal ce qu'il a fait. Enfin, pour prendre mon exemple, je sais pas, notre ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, bon, bah, a porté plainte plusieurs fois, là, pour, par exemple, le jeu des sept familles, Fachorama.
Oui, Fachorama.
A porté plainte parce que c'était terrible pour un policier de la BAC de dire que peut-être ce policier-là pouvait être violent et raciste. En quoi il y a un danger réel pour Laurent Nunez ou les policiers de la BAC.
Mais ça, c'est intéressant parce que Sarah Schulman revient d'ailleurs sur le fait que ce qui pourrait être un conflit, c'est-à-dire un désaccord, le fait de mal prendre quelque chose, le fait d'être inconfortable, mal à l'aise, n'a rien à voir avec une agression. Et elle critique beaucoup ce recours à la judiciarisation, c'est-à-dire faire appel à la police, à l'État. On va en reparler, Juliette Drouard, mais j'aimerais qu'on écoute tout de suite un extrait du conflit n'est pas une agression, parce que vous avez pris l'exemple du policier. Et effectivement, Sarah Schulman commence par des policiers, un footballeur, un riche footballeur et l'État d'Israël.
Se sentir agressé en l'absence de menaces n'est évidemment pas l'apanage de la police, des riches joueurs de football ou des colons, cela va de soi. Les dominants et les dominantes ne sont pas les seuls à s'estimer menacés lorsqu'ils et elles sont confrontés à des conflits ordinaires ou que leurs actions injustes suscitent des résistances. En réalité, ces réactions dysfonctionnelles sont le lot des forts et des fortes comme des faibles, des personnes dominantes comme des personnes traumatisées, et s'observent aussi bien à l'échelle de la société que dans l'intimité. Dans des espaces où de véritables agressions peuvent potentiellement avoir lieu, certaines personnes se sentent persécutées et menacées quand bien même elles ne sont pas en danger, sans souvent pouvoir compter sur leur entourage pour les aider à faire la différence entre ce qui pourrait advenir et ce qui se passe réellement. Les harceleurs et les harceleuses s'imaginent souvent qu'ils et elles sont la cible d'agressions, alors que ce sont eux et elles qui provoquent les souffrances. Partout où l'on regarde, on retrouve cette confusion entre conflit et agression.
Extrait du conflit n'est pas une agression de Sarah Schulman. Nous sommes ici dans le premier chapitre, extrait de la première partie qui s'intitule « En amour, le conflit n'est pas une agression ». Ce texte a été lu par Anaïs Isbert et on entend très bien la thèse de Sarah Schulman, Juliette Drouard, qui est effectivement qu'on a une confusion entre conflit et agression. Alors on a commencé un petit peu à évoquer cette distinction. Sarah Schulman, elle s'inspire, elle l'explique très bien, d'une travailleuse sociale qui s'appelle Catherine Hodes pour différencier l'agression du conflit. Et Catherine Hodes dit « La différence entre un conflit et une agression s'illustre par la différence entre une lutte de pouvoir et le fait d'avoir du pouvoir sur quelqu'un ». Est-ce que vous, Juliette Drouard, cette distinction, elle suffit déjà à tout dire, ou il faut quand même l'agrémenter, la complexifier?
En tout cas, ça aide à... je ne sais pas trop comment répondre à cette... Pardon. Mais ça aide vraiment à penser les choses. En tout cas, de dire que dans le conflit, encore une fois... on peut avoir on n'est pas en danger par l'autre, pour reprendre cette rhétorique, et du coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a juste des envies, des besoins différents, et on est là-dessus, alors que une agression, il s'agit plutôt de renforcer sa domination et son pouvoir sur sur l'autre, alors que l'autre n'est pas du tout une menace à ses propres intérêts, quoi.
Aujourd'hui, on est en 2025, fin 2025. Je tiens à préciser, je l'ai dit au tout début, mais il faut le redire, que Sarah Schulman, elle écrit ce texte il y a 10 ans, au milieu des années 2010. Il paraît en 2016 aux États-Unis. Il est seulement paru en 2021 en France, en langue française. Entre-temps, il y a eu énormément de mouvements. Il y a eu un rebond féministe avec MeToo. On a tendance aussi à pouvoir lire ce texte en ayant nous en tête en fait tous ces événements-là. Je précise aussi, parce que le texte est en trois grandes parties, que la dernière partie du texte de Sarah Schulman porte sur le conflit israélo-palestinien et qu'elle s'appuie sur l'année 2014. Donc elle l'a écrit aussi bien avant le 7 octobre 2023. Ça aussi, en fait, ça nous biaise dans la lecture. Et on pourrait avoir tendance, en fait, en lisant Sarah Schulman, oui, c'est bien de vouloir réhabiliter le conflit, mais est-ce qu'en faisant ça, on minimise pas aussi ce qu'est une agression? Est-ce qu'on n'est pas obligé de se justifier, de dire, là, c'est une agression, là, c'est un conflit? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'en fait, elle nous donne pas des moyens, en fait, de différencier, mais plutôt de dire, en fait, de nuancer les agressions?
Alors, en fait, ce qu'elle fait, c'est pas de nuancer les agressions, c'est de bien être sûr d'où part la violence et quel est l'acte de violence, en fait. Par exemple, tu parlais du mouvement MeToo et on pourrait penser à la formule « on vous croit ».
Et dont elle parle, d'ailleurs.
Hein. Voilà, et dont elle parle. Et donc, l'idée, c'est de dire, effectivement... a priori, il faut vous croire dans les actes de violence produits par des hommes à votre encontre, parce que dans la relation homme-femme, il y a une dynamique de pouvoir. Donc, a priori, en tout cas, c'est un facilitateur d'agression, le fait qu'il y ait plus de pouvoir. Mais néanmoins, il faut examiner les faits. C'est ça qu'elle dit. C'est a priori, statistiquement, vous avez raison quand vous dites j'ai été agressé, c'est statistique, dans ce sens du pouvoir. Cependant, il y a des fois où ce sera faux et où vous vous êtes senti agressé. Voilà, c'est tout ce qu'elle dit. Moi, la nuance et la complexité, c'est le vecteur de la paix. S'il n'y a pas de nuance ni de complexité, il n'y a pas de paix. Donc moi, ça ne m'intéresse pas de rentrer, y compris pour être loyale envers les personnes que j'aime, et ça aussi elle en parle,
ouais.
Ça ne m'intéresse pas de dire du coup je vais être injuste ou je vais adhérer à des choses parce qu'on me dit elle s'est fait agresser, donc ne fais pas ça, ou punis l'autre, ou je vais d'abord dire ok, c'est quoi les faits? Parce que je sais que ça arrive de se sentir agressé sans l'être.
C'est d'ailleurs très intéressant que vous disiez ça, Juliette Drouard, parce que le texte commence ainsi. Se sentir agressé en l'absence de menace. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de sensation ou peut-être de sentiment, c'est-à-dire de quelque chose de plus élaboré qu'une sensation. Mais comment on arrive justement dans ces moments où on se sent agressé à se dire ça n'est pas une agression. C'est une chose que vous reprenez, Juliette Drouard, que vous travaillez beaucoup dans votre livre Trauma, que Sarah Schulman ne travaille pas de manière clinique comme vous, mais sur laquelle elle insiste. Mais quels sont les moyens pour se rendre compte de ça? C'est-à-dire faire la distinction entre un sentiment qui est tout à fait légitime, qui est tout à fait objectivement ressenti, même si ça n'a pas de sens de dire objectivement ressenti puisque c'est toujours subjectif, mais vous voyez, quelque chose en fait qui est vrai pour la personne qui le ressent, mais qui, en fait, dans la réalité, dans un contexte avec plusieurs acteurs, des circonstances, ne ressemble pas à une menace ou une agression.
Eh bien, Sarah Schulman, et d'ailleurs, comme moi aussi, dans ce livre, ça a été une des questions qu'on peut se poser à soi-même ou poser à l'autre, c'est est-ce que tu as été en danger réel, je veux dire objectif, pas de s'être senti en danger, mais est-ce que qu'est-ce que, dans la description des faits de l'autre, est-ce que les faits objectifs auraient pu porter atteinte à ton intégrité physique ou psychologique? Donc c'est aussi travailler sur l'échelonnage des actes. Parce que il se peut qu'effectivement il y ait eu des actes objectifs, encore une fois, tenons-nous-en aux faits, qui puissent être difficiles. Donc nuançons, il y a des actes qui sont difficiles, des actes qui nous mettent mal à l'aise, il y a des actes qui sont désagréables, il y a des actes qui sont durs, puis il y a des actes qui sont violents. Et encore une fois, pour moi, la violence, c'est des actes violents, c'est ce qui peut mettre en danger notre intégrité physique ou psychique. Donc c'est pas tout.
Mais quelle est la différence entre un acte dur et un acte qui nous met en danger psychique? Si par exemple on a été traumatisé par quelque chose, ou même si en fait on n'a pas été traumatisé, mais enfin, est-ce le cas en fait de ne jamais en fait avoir eu de traumatisme avec des degrés différents, bien évidemment, mais on peut toujours se dire que ce qui est dur est inacceptable.
On peut dire ça a été dur et je ne l'accepte pas. Mais on peut pas dire l'autre m'a agressé. Ça a été une agression, ça a été ultra violent, et du coup je suis traumatisée à cause de toi. Non, on peut dire ce que tu as fait a été dur ou désagréable, et je n'ai pas envie de rester à ton contact. Ce qui est très différent, et ça rentre pas dans les mêmes logiques. Et par ailleurs, Sarah Schulman insiste sur le fait que le fait de discerner ça, à aucun moment, ça veut dire être dans le déni par rapport aux violences qui sont commises. C'est-à-dire, les actes de violence sont des actes de violence réels. Je dirais, pour moi, au contraire, ça permet de mettre les choses au bon endroit parce qu'on a des problèmes liés à des dénis collectifs d'actes de violence. C'est-à-dire, on a les problèmes dans les deux excès. Les deux, d'ailleurs, sont liés aussi à des logiques traumatiques. C'est-à-dire, le déni est empreint de logiques traumatiques. Donc, on a soit des personnes qui nient des faits de violence avérés et qui sont complètement dans le déni dans notre société. Ah ben non, c'est inceste, mais pas du tout. Mais de quoi tu parles? Je te montrais juste mon sexe parce que c'est rigolo. Non, mais ça, je l'entends très souvent par ailleurs. Donc c'est sur des enfants. Il y a toujours des logiques de déni très fort, sociétal comme individuel. Mais notre société, c'est un regroupement d'individus entre eux, qui du coup ne reconnaissent pas des actes de violence avérés, comme il peut y avoir cette autre logique de sentir un acte comme violent parce que on se sent en danger avec l'autre de manière plus ou moins constante, et puis ça dépend de est-ce que l'autre nous rappelle telle ou telle chose, alors que il n'y avait pas d'acte de violence, et dans ce cas-là produire des formes d'escalade. Et effectivement, Sarah Schulman va plus se centrer sur ce mécanisme-là dans son livre, c'est-à-dire sur le mécanisme de je me sens agressé et donc escalade, que sur d'autres mécanismes, à mon sens, qui sont aussi importants, qui sont le déni, l'addiction à la violence liée à des traumatismes.
Oui, le fait de rechercher sans le vouloir, voilà, mais des situations de douleur qu'on a ressenties.
Et d'être excité par la souffrance de l'autre, d'être excité par la violence, parce que ça, c'est un mécanisme qui est lié au traumatisme.
Donc, mais alors, c'est vrai que, voilà, c'est ce que je vous disais avant l'émission, Julie Edouard, moi j'ai découvert ce livre, Le conflit n'est pas une agression, parce que vous l'avez choisi, et j'ai eu l'impression, en le lisant, en fait, qu'effectivement, le fait qu'elle travaille plus sur ce versant d'un excès du tout agression, pour le dire très rapidement, fait qu'on pourrait très bien le lire aujourd'hui en se disant, le slogan, croyez les femmes, en fait, prenez-le avec des pincettes. Quand une personne se dit agressée, en fait, c'est à elle de réfléchir sur ses actes et de se demander si ce n'est pas elle qui disproportionne la situation qui lui tombe dessus. On va entendre un autre texte, mais où aussi elle demande une forme de prudence à l'égard de groupes, de soutien amicaux, militants qui, en fait, et ça c'est un concept chez elle, qui vont miser sur l'escalade de la violence, la fuite, l'exclusion de la personne qui a été désignée comme coupable. Voilà, je me dis, en 2025, on lit ce livre, on peut aussi s'en servir en disant regardez, en fait, les femmes se sentent agressées, elles se sentent.
Je pense que tout au long du livre, c'est quand même une personne qui, justement, grâce à ses réflexions, replace la violence là où elle est. Mm-hmm. C'est-à-dire, elle parle autant du fait de se sentir agressée que d'agression réelle. Mm-hmm. Elle dit, elle revient aussi à chaque fois sur... et évidemment, comme c'est la thèse de son livre, elle prend plus d'exemples sur quand je me suis senti agressé. Mais, et c'est normal vu que c'est sa thèse, je veux dire, ça n'aurait pas de sens autrement.
Oui, et ça va du SMS auquel on ne répond pas, ou, voilà. du nombre excessif de SMS, de textos qu'on envoie, ou à l'inverse, voilà, elle parle aussi de violence policière, de violence à échelle étatique, géopolitique.
Tout à fait. Et par ailleurs, quand ce sentiment d'être agressé, quand il produit des violences réelles, ça lui permet de dire, ce sont des actes de violence qui ont été produits suite à un sentiment d'agression qui n'était pas réel. Ça, c'est la thèse de son livre. C'est comment, suite à un sentiment d'agression qui n'est pas une réelle agression, on en vient, et quand je dis on, c'est parce que c'est interpersonnel comme l'État, on en vient à produire des violences qui, elles, sont réelles. Et où là, il ne s'agit pas des personnes qui se sont senties agressées. Ce sont de réelles agressions et de réelles menaces à la vie et à l'intégrité des personnes qui sont visées par ces actes-là. Donc ça, c'est vraiment toute la thèse du livre, mais elle pointe bien acte de violence réelle et sentiment d'être agressé. Donc c'est... Je pense que si on lit ce livre en étant un peu de... Ça peut toucher, par contre, je pense, des endroits de fragilité ou de... Oui, ça peut toucher des endroits de fragilité. On peut, et je pense par ailleurs que c'est difficile d'écrire sur ces sujets-là. Enfin, personnellement, ça m'a beaucoup traversé quand j'ai écrit trop mal. L'envie d'une grande délicatesse et aussi qu'il n'y ait pas de douleur qui soit associée à une lecture de ça.
C'est ce qu'elle disait dans l'archive au début, Sarah Schulman, c'est-à-dire qu'il y a cette difficulté à l'autocritique. C'est-à-dire que faire son autocritique, quelle que soit sa situation, qu'est-ce qu'on est, notre expérience, ce qu'on a vécu, nos traumatismes, fait que ça rend l'autocritique plus compliquée, mais nécessaire.
Tout à fait. Et c'est sûr que c'est un exercice qui est difficile. Et moi-même, récemment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais de ma vie perso, mais j'ai eu une réaction traumatique avec quelqu'un avec qui on était en conflit. Et ça m'a pris beaucoup de temps de redescendre, de me dire, OK, non, j'étais pas en danger, c'est pas grave. C'est pas facile quand on a des réactions qui sont très, très fortes, de se dire, il y a quand même, ça m'appartient. J'étais pas en danger. Donc ça, ces choses-là m'appartiennent. Après, encore une fois, l'angle où je peux aller un petit peu, à d'autres endroits, c'est que, à mon sens, les agressions ne sont pas forcément principalement liées ou que liées à ce sentiment premier dont elle parle, de s'être senti agressé ou de disproportion. Je pense qu'il y a pas mal d'autres logiques qui rentrent aussi. Mais par contre, là où on se rejoint également, c'est que c'est aussi des logiques traumatiques. Donc c'est...
Exclure, réduire au silence, déshumaniser ne sont pas des droits naturels. Dire « je refuse de parler avec elle » suite à un conflit revient à jouer le rôle de victime vertueuse d'une agression sans réellement vivre cette situation. Comme toujours, ce sont les personnes qui côtoient la situation qui vont déterminer si une exclusion injuste peut ou non avoir lieu. Elles peuvent refuser d'y prendre part ou soutenir aveuglément la décision. Au fondement de ces questionnements, il y a la responsabilité de la personne qui propose une écoute bienveillante. Si la relation nouée est superficielle, les amis, les proches, les collègues ou les militants et les militantes ne vont pas prendre le temps de poser les bonnes questions et d'aider la personne en conflit à dépasser sa honte, sa colère et sa frustration pour lui permettre d'envisager tant la complexité de son implication dans la situation qu'un processus de réparation. En choisissant ses interlocuteurs et ses interlocutrices, la personne va aussi choisir si elle peut faire passer le conflit pour une agression et également établir la norme morale de son groupe d'appartenance. Faisons-nous partie d'une famille qui stigmatise les inconnus pour éviter d'affronter ses problèmes de fond ? Quand on se retrouve ensemble à exclure et à sanctionner, sommes-nous unis par des liens de fausse loyauté ? Ou appartenons-nous au contraire à une famille dont le principe est de nous entraider à assumer nos responsabilités quant à nos dysfonctionnements et nos problèmes de développement, et à ne pas les projeter sur les personnes qui les observent avec lucidité ?
France Culture, le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Le conflit n'est pas une agression de Sarah Schulman, extrait cette fois-ci de deuxième chapitre, se défaire de l'intime, l'État et la production de la violence. C'est vous, Juliette Drouard, qui avez choisi ce livre et cet extrait en particulier. Il y a énormément de choses à déplier dans ce texte, on n'aura pas le temps de tout dire, mais deux choses néanmoins qui sont frappantes. Déjà le fait de revenir au principe de responsabilité d'une personne, c'est-à-dire en finir, en creux, c'est ce que dit Sarah Schulman et qu'elle défend dans son essai, arrêter en fait de vouloir l'intervention permanente de l'État, de la police, une forme de judiciarisation permanente en fait des rapports interpersonnels, donc revenir à la responsabilité individuelle, et puis aussi prendre avec des pincettes ce terme de loyauté qui est dans le texte.
Oui, la loyauté, elle en parle beaucoup par rapport aux groupes. Alors ça peut être des groupes sociaux d'appartenance nationale, des groupes nationaux ou des groupes d'amis, en fait. Ça peut être déclinable à différentes échelles. Mais elle part de logiques qui peuvent être toxiques et d'autres toxiques dans le sens qui promeuvent l'escalade vers la violence et d'autres qui, au contraire, vont aider à apaiser, à s'écouter et à retourner dans une conflictualité saine quand c'est possible. C'est-à-dire, encore une fois, quand on n'est pas en danger par rapport à l'autre. Et notamment avec des choses qui peuvent paraître très basiques, mais encore une fois, c'est quand, pour se centrer, voilà, c'est son concept, donc c'est pour ça qu'elle utilise ces exemples-là. Mais quand il y a une personne qui dit, voilà, je me suis fait agresser, c'est horrible, l'autre est ultra violent, donc je vais aller porter plainte. Moi, je prends...
l'exemple le plus frappant.
Voilà, le plus frappant, mais après, c'est ce qui est super, c'est qu'elle prend plein d'exemples. Voilà, un groupe toxique, ce sera un groupe qui, sans demander ce qui s'est passé, ou que très vaguement, ou que en prenant que le point de vue de la personne, et sa subjectivité, dire « ah bah oui, c'est horrible, allons à la police ensemble, c'est très violent ce qui s'est passé ». Elle dit d'abord enquêter sur les faits, qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et aider votre éventuellement votre ami si c'est une situation d'amitié à déplier les faits et à les distinguer de ses ressentis et de ses interprétations, parce que ça c'est malheureusement un des mots les plus contemporains, les plus forts, c'est ne plus savoir distinguer les faits des interprétations. Vous allez sur Instagram, vous regardez sous n'importe quel publi, sous une publi où quelqu'un a dit telle chose, qu'est-ce que j'avais en tête Là, ce qui me vient, c'est, je crois que c'était l'acteur Pierre Ninet qui disait un truc sur « j'exclus pas un jour de m'ouvrir à l'homosexualité ». Bon, il y a des personnes sous ce commentaire qui vont dire « ah bah c'est trop bien, une représentation d'un acteur qui s'ouvre hein, », et d'autres qui vont dire « mais l'homosexualité, c'est pas un choix, d'où il dit ça ?» On voit toute une variété d'interprétations, et comme si c'était des faits, comme si ce qu'il avait dit, ça veut dire ça. Et les personnes ont du mal à distinguer, ça c'est mon interprétation. La personne, ce qu'elle a dit, c'est ce qu'elle a dit. C'est la phrase qu'elle a dite, c'est pas moi, ah mais c'est horrible, ou c'est... Enfin, bref. Et donc, en tout cas, Sarah Schulman a un entourage positif, c'est un entourage qui aide la personne déjà à déployer quels sont les faits et quelles sont les interprétations. C'est un entourage qui va aller dans des situations équivoques, aller demander à l'autre personne qui est impliquée, mais qu'est-ce qui s'est passé pour toi ? Quelle a été toi, ta réalité des faits ? Est-ce qui s'est joué ? Est-ce qu'il y a une situation de pouvoir entre les deux personnes ? Donc en fait, elle encourage tout simplement à aller vers la conflictualité quand c'est possible, en réussissant à distinguer si la personne s'est sentie agressée alors qu'il n'y avait pas une agression, ou s'il y a eu une agression réelle, tout simplement.
Et puis ça revient à cette notion, à ce concept même de responsabilité qui est nommé dans le texte qu'on vient d'entendre et que vous utilisez aussi, Juliette Drouard, c'est-à-dire en appeler à la responsabilité, moins en fait à une forme de justice qui serait surplombante, mais vous le dites très bien, à une forme de justesse, c'est-à-dire en étant responsable, c'est-à-dire en se disant qu'est-ce que moi j'ai fait, qu'est-ce qui relève de mon interprétation, qu'est-ce qui relève des faits, j'ai une vision plus juste de la situation, plus juste dans le sens plus proche de la justesse, pas tant en fait d'une justice qui dirait ce qui est bien ou ce qui est mal.
C'est à la fois, effectivement, c'est en tout cas une justice qui sait s'appuyer sur repérer des actes qui sont violents, de sentiments, d'avoir été violenté, donc c'est vraiment aussi avoir un répertoire très clair par rapport à ça. Et en fait, c'est les concepts de justice transformatrice, c'est-à-dire de à la fois travailler sur des logiques de pouvoir qui peuvent être présentes à travers deux personnes ou dans un groupe, et essayer de les débunker dans l'impact qu'elles ont pu avoir sur une forme ou un début d'escalade, et à la fois voilà permettre une écoute entre les deux personnes si possible, et rechercher ensemble des formes de solutions sur des blessures ou sur des endroits où il y avait des besoins qui étaient en compétition quand c'est possible et quand il n'y a pas effectivement un acte violent qui là demande que la personne soit contenue et qu'elle ne soit plus, d'une part, plus dangereuse pour les autres, donc que cette personne prenne sa responsabilité, peu importe la source de l'acte de violence. Est-ce que c'est un acte de violence parce que je suis en position de domination, parce que je me suis... Et donc, c'est mon droit d'agir comme ça, ou en tout cas que c'est renforcé dans ma tête, que c'est mon droit d'agir comme ça, que ce soit parce que je me suis senti agressé, que ce soit parce que je suis excité par la violence, que ce soit parce que je suis coupé de mon temps d'empathie, peu importe, en tout cas, quand il y a un acte de violence, c'est savoir le reconnaître et de dire à la personne, là, stop, en fait, ce que tu produis, là, c'est un réel danger. Ou de dire à la personne, là, t'es pas en réel danger. Viens parler. Bon, c'est deux traitements différents, mais pouvoir choisir les traitements appropriés face à des situations.
On va écouter la voix d'une autre personne qui a influencé votre travail, Juliette Drouard.
I'm going to give you the bad news first. Trauma is...
Je vais vous donner la mauvaise nouvelle d'abord.
A fact of life.
Le traumatisme fait partie de la vie. Aucun de nous, ou presque, n'a traversé la vie sans être exposé, à un moment donné, à une expérience potentiellement traumatisante. La bonne nouvelle, c'est que le traumatisme n'a pas à être une condamnation à perpétuité. Il y a des méthodes, des outils, des approches qui peuvent aider les gens, non seulement à résoudre, mais à transformer les effets du traumatisme. Et l'une des clés de ce programme est le rôle central du corps, à la fois comme symptôme et comme guérison. Je vais vous donner un exemple. Quelque chose arrive qui vous effraie énormément. Vous voyez quelque chose d'horrible. Ce sont les réactions du corps. J'ai inspiré fortement, j'ai rétracté mes épaules, elles sont remontées, mon cou s'est abaissé. J'ai écarquillé les yeux. Le corps passe en mode protection. Il se prépare au combat ou à la fuite. Et puis nous restons coincés comme ça. Notre corps reste coincé. Notre corps dit alors à notre esprit que la menace existe toujours. Mais si nous comprenons comment le trauma est inscrit dans le corps et qu'on peut travailler avec le corps, alors nous avons un outil très important pour la transformation du traumatisme.
C'est la voix de Peter A. Levin. J'ai droit, vous le citez, je dirais pas abondamment, mais enfin, vous le citez à plusieurs reprises dans votre livre Trauma. Peter A. Levin, c'est un docteur en sciences médicales et biologiques, docteur en psychologie, il est spécialiste du traumatisme, et il a une approche complètement différente de Sarah Schulman. Sarah Schulman, le conflit n'est pas une agression, elle le voit comme un essai, un manifeste réparateur, mais où en fait, elle va avoir une théorie plus une dimension plus politique, c'est-à-dire en finir avec une justice punitive, carcérale, ce que vous développez aussi, Juliette Drouard. Mais là, avec Peter A. Levin, on a quelque chose de plus clinique, avec quelque chose de plus de l'ordre de la guérison par le corps.
Effectivement, Peter Levin, ça a été pour moi, pour le coup, une inspiration. C'est-à-dire, ça faisait partie des...
Ça, vous l'avez lu au début.
Voilà, ça, je l'ai lu au début, exactement. Parce que, justement, il ne fait pas l'articulation politique psychologique m'interpelle et m'intéresse particulièrement. Et en revanche, c'est quelqu'un qui m'a aidé à penser c'est quoi les traumatismes. Parce que, à travers notamment, je trouve que c'est quelqu'un de très clair.
On l'entend là, dans l'archive, c'est limpide.
C'est quelqu'un de très clair et qui travaille beaucoup avec les autres espèces animales que la nôtre. Et donc, en fait, c'est avec ces comparaisons donc en éthologie, avec l'étude des autres espèces, ça permet de bien comprendre comment les traumatismes agissent dans le corps et pourquoi. C'est-à-dire, par exemple, il va utiliser la comparaison en disant bah, d'autres espèces, quand on est sur le point de mourir, effectivement, il va y avoir une réaction de figement pour ne pas ressentir la douleur, pour aussi parfois passer un peu sous les radars quand on est en situation de prédation. Voilà, il y a plusieurs raisons biologiques à ça, mais qui permettent en fait que c'est une réaction de survie. Et puis, l'animal, quand dans une situation normale, c'est-à-dire quand il n'est pas, par exemple, en cage ou torturé par des êtres humains, en fait, dans la nature, et ben une fois la menace passée, s'il n'a pas été mangé, et ben il sort de cet état de figement avec des formes de réaction de combat ou de fuite ou de tremblement. Il évacue en fait cette énergie qui avait été stockée dans ses muscles et puis il repart et il n'est pas traumatisé. Et donc, Peter Levin aide aussi à ces comparaisons de comprendre pourquoi, par exemple, on peut réentrer dans ces réactions de figement, mais aussi pourquoi on a du mal à en sortir dans certains contextes sociaux qui fait qu'en fait, cette réaction de survie qui est convoquée en cas de grand danger naturellement par le corps pour arrêter en fait la sécrétion de neurotoxiques dans une situation où on doit essayer de où on est menacé, en fait, on se fige quand, au bout d'un moment, pour arrêter ces sécrétions qui sont inutiles, parce qu'on ne peut plus combattre, on ne peut plus fuir, et donc ça nous met en danger de continuer à sécréter toutes ces substances. Donc tout s'arrête, on se fige, et par contre, chez les êtres humains, pour plein de raisons sociales, souvent, on n'arrive pas à sortir de cette réaction de figement pour un retour à l'état antérieur. On ressort traumatisé. Ça veut dire en fait qu'on reste, on n'a pas évacué ce qui s'est passé, l'expérience qui s'est passée corporellement n'a pas été comprise par le cerveau, n'a pas été l'énergie stockée n'a pas été évacuée, et on reste dans l'état en fait au moment où on est rentré dans ce figement. Donc on reste avec des émotions de terreur, de rage, de honte, et son travail est donc à la fois de permettre de comprendre ça à travers l'éthologie. Et aussi, il développe une méthode, par ailleurs, avec laquelle je suis pas forcément à 100% raccord, mais ou en tout cas, je l'utilise pas forcément, mais qui permet d'évacuer, en gros, l'énergie qui a été stockée dans ces moments-là et les émotions attenantes pour un retour à l'état non traumatisé.
cette chanson, Juliette Drouard, pour introduire cette séquence de fin d'émission après avoir évoqué l'œuvre qui a transformé votre vie, en tout cas les dernières années de votre vie, place à un auteur que vous n'aimez pas ou qui vous résiste, que vous n'arrivez pas à lire ou que vous parvenez très bien à lire, mais que vous n'aimez pas. Qui avez-vous choisi ? Vous n'êtes pas obligé d'être bitchy.
Voilà. Oui, non, parce que c'est pas que j'aime pas, c'est que je n'y arrive pas. Ce qui m'est venu en tête, c'était Judith Butler, mais ça pourrait être d'autres auteuristes. C'est quand le vocabulaire est trop spécifique, mm-hmm, dans des champs universitaires. J'essaye de décrire, hein, ce qui c'est. C'est trop compliqué pour moi.
Ouais. Philosophe, quand même, je le précise, majeur, voilà, trouble dans le genre en 1990,
Et par ailleurs, nécessaire. C'est-à-dire, voilà, c'est des personnes dont j'admire le travail et dont le travail est nécessaire et qui, par ailleurs, en plus, peuvent s'inscrire, du coup, dans des champs, je sais pas si on peut dire champs de compétition, mais il faut pouvoir s'imposer dans des champs universitaires. Mm-hmm. Genre, on peut, c'est aussi obligatoire d'utiliser le vocabulaire, la sémantique de ce champ-là.
Qu'elle a en particulier instauré, d'ailleurs, parce que dans les théories de genre, le texte de Judith Butler, il est considéré comme incontournable. Mais c'est vrai qu'on oublie de dire que c'est un texte qui est difficile,
oui,
qui n'est pas forcément accessible. On a tendance peut-être à le citer comme si c'était une référence facile à avoir.
Oui, c'est vrai que je suis plus attirée, et l'un n'empêche pas l'autre, enfin, chacun, c'est, voilà. Moi, je suis plus attirée par les textes et les manières d'écrire et de penser qui sont très directes et plus limpides. Mmh. Voilà. Moi, ça me parle plus.
Plus Sarah Schulman, qui d'ailleurs revendique le fait de ne pas faire un texte universitaire.
Tout à fait, exactement. Et moi, c'est vrai que ça touche encore, et ça, c'est complètement subjectif, encore une fois. Ça vient me toucher à l'endroit de valeurs plus, on va dire, populaires.
Merci beaucoup Juliette Drouard. De vous, on peut lire Trauma, en finir avec nos violences, c'est paru aux éditions Stock, votre roman Cui-Cui paru aux éditions du Seuil, mais aussi, vous l'avez très rapidement cité, Sortir de l'hétérosexualité et la culture de l'inceste, qui est un texte collectif sous votre direction et celle d'Iris Bray, et tous les deux sont disponibles aux éditions Point. Pour lire Le conflit n'est pas une agression de Sarah Schulman, le livre est disponible aux éditions B42 dans la traduction de Julia Burtin-Zortea et Joséphine Gross. Et un grand merci à Manon de la Salle et Corinne Amar, à Cassandre Puel à la réalisation, à Anaïs Isbert à la lecture des textes, à Jean-Guilain Meige à la prise de son. Toutes les émissions du Souffle sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.